Merci Aurélie Kiefer. Avant de commencer, un salut amical et fraternel à Hervé Gardette. Il a porté le grain à moudre pendant 8 ans avec intelligence, curiosité et pertinence, 3 qualités qui feront toute la valeur d'ailleurs de son nouveau rendez-vous sur France Culture, une chronique sur la transition écologique à la rentrée dans la matinale de Guillaume Herner. En attendant cet été, ce sont Julie Gacon et moi-même, Antoine Janton, donc, qui allons animer cette belle émission. Hervé, merci et à très vite, car on ne se quitte pas encore tout à fait. Hervé, nous allons le retrouver toute cette semaine à 19h en direct et en public de Montpellier pour les rencontres de Pétrarque. Voilà, c'est dit. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grain à moudre d'été. Ce soir, l'EPR aura-t-il la peau de la filière nucléaire française ? C'est un chantier qui est quasiment terminé depuis plusieurs semaines même. Pourtant, ceux qui le suivent, ceux qui y travaillent, n'en voient toujours pas la fin. L'EPR de Flamanville ne cesse d'accumuler les déboires. Le dernier en date remonte à 10 jours. Il faut refaire certaines soudures, 8 précisément. Ce n'est pas beaucoup, mais elles sont très difficiles d'accès. Des soudures qui ne respectent pas les normes de sécurité selon l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, organisme indépendant et exigeant. De nouveaux travaux donc pour le maître d'ouvrage EDF, qui a bien essayé d'y échapper. De nouveaux retards aussi. On parlait ces derniers mois d'une possible mise en service l'an prochain. Finalement, ce ne sera pas avant 2022. 10 ans après la date prévue lors du lancement du projet, 10 ans de retard au moins. Et un coût qui explose, 11 milliards d'euros, dernière estimation, c'est 3 fois le budget initial. Des chiffres affolants, une situation inquiétante à tel point que l'hypothèse, certes improbable, d'un arrêt du chantier de l'EPR sera évoquée lors du prochain conseil d'administration d'EDF. Tout cela alors que le nucléaire français ne sait pas très bien où il va. Une nouvelle politique, de nouveaux objectifs doivent être présentés dans 2 ans. D'ici là, l'EPR aura-t-il la peau de la filière nucléaire française ? C'est la question de ce premier numéro du grain à moudre d'été. Pour y répondre, 3 invités. Valérie Faudeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. David Martineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des directeurs du cabinet de conseil SIA. Vous vous occupez plus précisément des dossiers énergie. Je précise que EDF est l'un de vos clients, sans que vous travaillez pour autant d'ailleurs sur la production d'électricité. Alix Mazzoni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez, vous, chez Greenpeace France. Vous êtes chargé là-bas de campagne énergie. Commençons donc cette discussion autour de l'EPR, non pas en parlant de l'EPR en France, mais prenons un peu de champ, allons voir ce qui se passe en Chine et en Finlande. Là aussi, il y a des EPR qui ont connu quelques problèmes, mais eux, ils fonctionnent. En Chine depuis l'an dernier, je crois, en Finlande depuis cette année, quelques semaines. Pourquoi en France, ça ne fonctionne pas ? Valérie Faudon.
Je pense qu'il y a eu 2 points différents. Le premier, c'est qu'on a un changement de produit. Donc quand on fait un produit pour la première fois, un premier chantier, on a du retard. Et même l'EPR chinois, qui, comme vous l'avez dit, a démarré l'année dernière, il y a 1 an. Et d'ailleurs, le deuxième EPR chinois vient d'être connecté au réseau électrique. Les Chinois, ils ont eu aussi un peu de retard parce que c'était un nouveau produit. Mais il y a un facteur aggravant pour la France, c'est qu'on n'avait pas construit de nouveaux réacteurs nucléaires depuis 10 ans, 15 ans. Donc on a dû réapprendre à construire. Et ce qu'on a pu voir sur le chantier de Flamanville, c'était en effet des problèmes de compétences. Et il n'y a pas à dire, pour rester compétent, il faut construire.
On va y revenir. David Martineau, sur cette question, pourquoi en France on a du mal à construire l'EPR, alors qu'à l'origine, c'est en partie une conception française, hein, il faut le rappeler.
Tout à fait. Ouais, je rejoins le point sur, finalement, la perte de compétences en ayant arrêté de construire des centrales depuis quelques années. Donc évidemment, on a une filière avec de très nombreux emplois, de très nombreuses entreprises aujourd'hui, qui savent très bien exploiter le parc en production et qui d'ailleurs travaillent aussi sur la partie démantèlement. Ça, c'est un fait, hein. Par contre, sur la partie construction, qui nécessite des compétences un petit peu différentes, sur l'ingénierie, sur la préparation, sur la conduite des projets, là, effectivement, c'est un sujet qu'on a arrêté en France depuis quelques années, ce qui n'était absolument pas le cas de la Chine. La Chine n'a pas arrêté de construire des réacteurs. Hein, en 10 ans, je pense qu'ils ont construit 10 réacteurs récemment. Donc, toutes des compétences liées à tout ce qui est coulage du béton ou réalisation de tout un tas de choses sur des soudures hautes, on a sur des compétences réelles, avoués, maintenus, et donc qui ont réussi à aller plus vite que ce qu'on a pu constater en France.
Un manque d'expérience, perte de compétences, disiez-vous tous les deux. Je rappelle qu'il y avait, nos auditeurs le savent sûrement, mais beaucoup de réacteurs construits dans les années 70, 80, 90.
Absolument, 58.
Oui. Voilà, 58 en tout, encore en fonction aujourd'hui, peut-être 57 l'année prochaine avec l'arrêt de Flamanville.
On y a 56.
Voilà, 56, parce qu'il y en a 2, effectivement, on y reviendra dans les minutes qui viennent. Alix Mazzoni, Pourquoi, comment vous analysez tous ces défauts, tous ces retards accumulés autour de l'EPR de Flamanville ?
C'est le cas de l'EPR de Flamanville, mais c'est aussi effectivement le cas de l'EPR en Finlande. Comme l'a dit Valérie Faudon, il y a aussi eu un problème sur les EPR chinois. Et même sur l'EPR qu'on est en train de construire au Royaume-Uni, il y a aussi des retards. Donc à un moment donné, effectivement, le discours sur c'est un prototype, c'est le début d'une filière, commence un petit peu à s'essouffler parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. On a des retours d'expérience et malgré ces retours d'expérience, on n'y arrive toujours pas. Nous, on est plus globalement inquiets parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 58 réacteurs actuellement très vieillissants sur le parc français et la filière nucléaire a tellement voulu construire un nouvel EPR, elle s'est engouffrée dans cette urgence, comme quoi on avait besoin de nouveaux nucléaires, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas tout faire. EDF est en crise financière, ils ont des moyens limités et ce nouveau nucléaire consomme énormément de ressources financières, alors que déjà il faut qu'on arrive à gérer le parc nucléaire vieillissant qui lui aussi demande des travaux, des réparations. Donc on est très inquiet des pertes de compétences assez visibles sur l'EPR de Flamanville.
Bon, là au moins on a un accord là-dessus sur la perte de compétences. On va revenir sur les conséquences sur celles qui concernent EDF en particulier. Valérie Faudon, arrêtons-nous encore quelques instants sur l'EPR et donc ces problèmes que rencontre ce réacteur à Flamanville. Est-ce que ces retards accumulés ces dernières années sont liés aussi à des malfaçons? On pense là à la maîtrise d'ouvrage d'EDF et puis aux sous-traitants que fait travailler l'entreprise.
Alors, il y a eu en effet des questions sur la cuve et les aciers de la cuve, et ces problèmes ont été instruits par l'autorité de sûreté, donc ils sont aujourd'hui derrière nous. Il y a eu un très gros audit de réaliser sur la filière. Donc, en effet, il y a eu des retards, mais le point qui est vraiment important, c'est que, et on l'a vu encore la semaine dernière, c'est que la filière a ses process qualité en place, elle identifie des problèmes qualité, elle met en place des process et des solutions pour les résoudre. Donc on a globalement un système qui fonctionne.
Maintenant, ce n'est pas ce que disait le président de la SN il y a quelque temps, qui parlait d'affaiblissement généralisé de la filière nucléaire.
Alors il a parlé en effet du besoin de la filière, de remonter en compétences, et ça c'est vraiment important. Je crois que c'est vraiment un diagnostic qui est partagé par tous, et qui pose d'ailleurs la question des futurs chantiers. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir renouveler une partie du parc nucléaire parce que ces centrales qui ont été construites dans les années 70-80, on va pouvoir les exploiter 50 ans, voire 60 ans en faisant des travaux. Mais à un moment donné, il faudra les renouveler. Et donc à ce moment-là, on doit de nouveau être en capacité de construire, non seulement pour la France, mais pour l'Europe, puisqu'on est le grand pays européen qui avons la maîtrise industrielle de cette technologie.
Alix Mazzoni.
En fait, justement, ces histoires de malfaçons, ça révèle quand même quelque chose. Enfin, c'est qu'on peut difficilement faire confiance à la filière nucléaire, d'elle-même faire du top qualité immédiatement. C'est suite à des interventions de l'ASN, suite à des détections un peu tardives et des déclarations.
Des déclarations qui ont été faites par la filière elle-même.
Oui, mais qui ont été faites très très tard, alors qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'ils auraient pu les faire. Donc tout ça, en fait, crée un peu une politique du fait accompli qu'on voit sur le chantier de l'EPR de Flamanville, qu'on voit aussi sur l'ensemble des réacteurs. C'est effectivement le fait que ça arrive toujours très tard, le moment où on se rend compte qu'il y avait un problème, bon, on a mis un petit peu de temps, on a mis beaucoup de temps même parfois à le déclarer. Sur l'histoire des soudures, ça fait très longtemps en fait qu'on aurait pu...
Oui, ça date de l'an dernier, hein, février-avril 2018.
La détection, quoi. Mais
la détection,
ça fait bien plus longtemps que la question avait été soulevée et qu'elle n'avait pas été réglée. Donc effectivement, jusqu'à maintenant, enfin en tout cas à Greenpeace, on se dit qu'il y a un problème. Justement, il y a trop de marge de manœuvre laissée à la filière et pas assez de contrôle en amont. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation un peu absurde parce que depuis le départ du chantier de Flamanville, il y a eu des problèmes. À chaque étape, il y a eu des problèmes, que ce soit sur les bétons, la cuve ou les soudures. Et à chaque fois, en fait, c'est très tardivement qu'on prend en main le problème. Et ça, c'est pas normal.
David Martineau, c'est la filière là, qui est en cause.
Moi, je partage pas exactement votre avis sur ce sujet, parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que cette filière est composée d'une multitude d'acteurs, et notamment sur les soudures, les compétences sont très spécifiques, avec des peu d'entreprises qui savent les réaliser, qui sont bien évidemment responsables de l'état de l'art et de la qualité de ce qu'elles font. Donc en elles-mêmes, ce sont des sous-traitants des différentes sociétés qui ont fait les différents OPR dans le monde. Et bien évidemment, ils ont une responsabilité et une garantie de bonne façon de ce qu'ils font. Ça n'exclut pas que les maîtrises d'ouvrage, et notamment EDF sur Flamanville, soient responsables d'en auditer la bonne façon et la bonne conformité. Là, je vous rejoins sur un point. Jean-Bernard Lévy le disait lui-même.
Le patron d'EDF.
Voilà, tout à fait, qu'il y avait eu quelques sujets qui avaient été découverts tardivement. Ne veut pas dire pour autant qu'ils ont essayé, à mon sens, urgence de les mettre sous le tapis et de retrouver une situation. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un point qui rassemble véritablement EDF, typiquement, et l'ASN, c'est le fait qu'ils font pas de compromis sur la sécurité. Si on regarde la sûreté nucléaire, vous pouvez prendre EDF de l'agent de maîtrise jusqu'à son PDG. Moi, je pense que ce sont des gens qui ont effectivement non seulement une culture, un ADN de la sécurité et de la sûreté nucléaire véritablement, et qui après, entre experts, sont pas toujours d'accord sur un sujet, mais je ne pense pas qu'ils aient que quelqu'un a quelque chose à gagner à essayer de cacher quelque chose quand il le connaît. Je ne pense pas que ça arriverait.
Valérie Faudon.
Oui, je pense que c'est très important de comprendre comment fonctionne la sûreté nucléaire en France. Donc vous avez l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité administrative indépendante. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne rendent pas compte au gouvernement. Enfin, ils rendent compte au Parlement. Et donc, ils ont l'autorité en France de pouvoir arrêter du jour au lendemain un réacteur nucléaire s'il pense que ça pose un problème de sûreté, et ils l'ont fait.
Ce qui a déjà été fait il y a quelques années.
Absolument un tricastin. Hein. Et ils ont, c'est eux qui vont donner l'autorisation à Flamanville de démarrer, d'où le fait qu'ils demandent la réparation des soudures avant démarrage. Ils ont la possibilité aujourd'hui d'imposer des retards à EDF sur le chantier. Donc ce sont des prérogatives très importantes qui garantissent justement la sûreté nucléaire.
Pour bien comprendre ce qui se passe au sein de l'EPR de Flamanville, il y a eu donc des soudures jugées défaillantes. EDF a voulu malgré tout lancer le réacteur en disant que finalement on pouvait faire ces réparations un peu plus tard, une fois que le réacteur serait lancé, ce qu'a refusé donc l'ASN, qui là, encore une fois, vous le disiez, Valérie Faudon, a montré toute son exigence et son caractère inflexible. Alors, Alex Mazzoni.
On est entièrement d'accord avec le caractère inflexible de l'ASN, à condition qu'il soit prévenu dans les temps. Et donc, sur l'histoire des soudures, on voit bien qu'ils ont été prévenus trop tardivement. D'ailleurs, le président de l'ASN, l'a lui-même constaté. Et pour en revenir plus en amont, effectivement, il y a plusieurs acteurs dans la filière. Il y a une usine qui s'appelle l'usine de Creusot-Forge, qui fabrique des pièces qui sont ensuite installées dans différents réacteurs nucléaires. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait eu tout un tas de pièces mal fabriquées, enfin, je sais pas comment le dire correctement, des anomalies sur qui ne respectaient pas toutes les normes, et que, en connaissance de cause, on avait caché ces dossiers et on avait quand même sorti les pièces et on les avait installées dans les réacteurs, y compris sur l'EPR de Flamanville. C'est le problème de la cuve, où on s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'était pas tout à fait aux normes, la composition de l'acier n'est pas exacte. Cette information a été découverte très tardivement par l'ASN, qui ne peut pas être partout en même temps et qui n'a pas non plus un milliard de... il n'y a pas un staff suffisant pour aller vérifier pièce par pièce qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble des sites français. Donc ça, c'est également un problème. C'est pour ça qu'on parle de perte de confiance aussi dans la capacité de la filière à dire les choses quand il faut dire les choses.
Valérie Faudon avant David Martino.
Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, le cas du Creusot est vraiment emblématique de la filière nucléaire, puisqu'en fait, l'audit qui a été mené, c'est sur toutes les pièces fabriquées par cette usine depuis 1965. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les dossiers ont
été
sortis.
Du boulot, ouais.
Toutes les pièces qui sortaient de cette usine et qui étaient dans les centrales nucléaires ont été vérifiées. Donc ça a été un travail absolument considérable qui a été fait. Je crois qu'il y a eu 1,5 million de pages de papier qui ont été vérifiées depuis 1965. Donc ça montre la capacité de la filière, quand il y a un problème qui est détecté, de prendre les mesures qui s'imposent pour établir la confiance.
David Martino.
Je rejoins ce que vous disiez, Alix, tout à l'heure sur le sujet de dire qu'il y a eu un problème au Creusot, et ça c'est clair. Et puis d'ailleurs, il y a eu des falsifications dossier à ça. Donc le sujet a eu du temps à se révéler à tout un tas d'acteurs, puisque forcément, à partir du moment où il y a intention de falsifier, enfin, ou intention de nuire, forcément, quelque part, ça va être caché, sinon ce serait pas une falsification. Par contre, je trouve que l'exemple que vous avez pris reflète bien que c'était pas si évident de trouver l'issue du sujet des soudures. Le premier exemple que vous avez pris, c'est celui de la cuve, où effectivement le couvercle de Flamanville a été jugé comme étant non conforme aux exigences et aux spécifications qui avaient été faites. Pour autant, il a été choisi de ne pas le remplacer avant mise en service, mais de le remplacer lors du premier arrêt de tranche qui aura lieu en 2024.
Le nouveau calendrier est respecté.
Donc, mais ça veut bien dire que le fait d'avoir quelque part un indice ou une pièce qui ne respecte pas exactement la norme qu'on veut a bien sûr un impact, et notamment un impact pour pouvoir durer la durée de vie prévue, c'est-à-dire 50 ans. L'acier, c'est quelque chose qui va se dégrader au fur et à mesure du temps, et on peut très bien avoir des experts qui considèrent que cette pièce d'acier, elle tiendra pendant 2 ans ou 3 ans, mais elle tiendra absolument pas pendant 50 ans, donc il faut la changer. On aurait pu avoir la même chose sur les soudures. Il se trouve que sur les soudures, les experts d'EDF ont un avis, les experts de l'ASN ont un autre avis. À la fin, c'est l'ASN qui en prend la décision et c'est bien évident. Et voilà, mais je pense pas que c'est été une volonté typiquement d'EDF d'imposer un choix. C'est juste un débat d'experts et il y en a eu un sur la cuve aussi qui a abouti à un résultat différent.
Sur toutes ces pièces, Valérie Faudon et David Martineau, tout à l'heure, vous parliez de perte de compétences. On a du mal à concevoir que ça puisse exister dans un pays aussi nucléarisé que la France, aussi industrielle, même si bon, il y a une part de désindustrialisation, mais en France, mais on a du mal à le concevoir, ça, cette perte de compétences, surtout concernant la filière nucléaire.
Alors en fait, comme le disait monsieur, il y a les compétences nécessaires pour exploiter le parc nucléaire, parce qu'on a en fait un très grand parc hein, dans le monde. On a donc des entreprises, on a 2500 entreprises en France qui travaillent dans le nucléaire. Hein. C'est notre troisième filière nationale. Et je réponds à votre question, mais je voulais juste dire qu'il y a quand même un niveau de technicité très élevé. C'est deux fois le niveau de technicité de la moyenne de l'industrie. Mais on se rend compte que les compétences, en effet, pour construire une nouvelle centrale ne sont pas exactement les mêmes. En termes de génie civil, enfin sur un certain nombre de pièces, ce ne sont pas exactement les mêmes. Mais comme vous le disiez, il y a eu des industrialisations. Entre le moment où dans les années 70 ou 80 on a construit le parc, il y avait actuellement par exemple énormément de soudeurs très qualifiés disponibles à l'embauche, parce qu'à cette époque-là on était lancé dans un programme, on a oublié ça, mais de construire des centrales thermiques fossiles hein, et qu'on a substitué des centrales nucléaires à cette époque-là à cause du choc pétrolier. Et en fait, toutes ces compétences aujourd'hui, on a énormément de mal à les trouver en France. Les soudeurs, on a du mal à embaucher des soudeurs. Il y a eu une certaine désaffection pour les métiers techniques et pourtant ils sont intéressants, ils sont à haute technicité, les salaires sont plus élevés et en effet on en souffre aujourd'hui. Et je crois que dans le plan du gouvernement de réindustrialiser la France, ces questions des compétences sont vraiment au cœur de la réindustrialisation du pays.
Parlons encore un peu de sécurité. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. L'EPR est décrit par ses promoteurs comme le réacteur nucléaire le plus sûr jamais construit, le plus sûr et le plus puissant. On va y venir dans quelques instants. Cela dit, avec tous ces problèmes pas forcément de conception, mais de réalisation de certaines pièces, le regard change aussi sur cette image, ou en tout cas sur l'image que voudraient donner les promoteurs de l'EPR, Valérie Faudon.
Non, parce qu'on a, comme on l'a vu, on a l'autorité de sûreté nucléaire qui contrôle l'EPR à tous les stades et qui donnera l'autorisation de démarrer. Donc à tous les stades de la conception, de la construction, on a ce contrôle de l'autorité sûreté nucléaire, on a des échanges techniques qui d'ailleurs sont entièrement transparents. Hein. Toutes les questions, tous les débats techniques qu'il y a eu sur les soudures sont en ligne sur le site de l'ASN. Hein.
Pas forcément compréhensible par tout le monde, mais au moins ils ont le mérite.
Chacun essaye d'expliquer en effet pour que ça soit accessible au plus grand nombre.
Alix Mazzoni, sur cette question de la sécurité, de l'image aussi renvoyée par l'EPR après ses déboires, ses retards.
Ouais, de base, de toute manière, dans le nucléaire, le risque zéro n'existe pas. L'EPR de Flamanville, effectivement, n'est pas du tout rassurant de ce point de vue-là, parce que pour en revenir à l'histoire de la cuve, l'autorité de sûreté nucléaire a dû prendre la décision d'autoriser ou non cette cuve. Donc c'est vraiment là où se passe...
Le risque zéro n'existe nulle part. Hein.
Il n'existe nulle part, mais bon, dans le cas du nucléaire, quand même, les conséquences sont plus importantes que sur d'autres secteurs. La cuve avait déjà été installée, donc l'autorité de sûreté nucléaire se retrouve à prendre une décision qui va justement aller bien au-delà de est-ce que j'autorise ou non cette cuve. C'est en fait, est-ce que je tue le nouveau nucléaire et la construction d'EPR ailleurs? Parce qu'à partir du moment où il faut refaire la cuve d'un réacteur, enfin, d'un tel chantier, ça aurait impacté des chantiers en Chine, ça aurait impacté le chantier au Royaume-Uni, ça aurait eu un impact en fait sur l'ensemble de la filière et de son image. Donc c'était quand même une grosse pression. Donc tout ça pour en revenir aujourd'hui, effectivement, pour nous, c'est très simple. Hein. On a trop dépensé d'argent, on a un réacteur qui va entamer, enfin s'il est mis en service, il va fonctionner en ayant déjà d'emblée des anomalies, alors qu'on a choisi de considérer qu'elles n'étaient pas assez dangereuses, mais bon, ça reste des anomalies. Si c'était le moteur d'une voiture, je ne sais pas si on considérait qu'il y avait des anomalies dans le moteur d'une voiture, on aurait rappelé le produit. C'est pas le cas dans le nucléaire, c'est trop compliqué de le faire. Mais oui, c'est plus qu'un risque zéro qui...
Ce que je voulais préciser, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire a exigé de la part des industriels des campagnes de tests qui sont presque des programmes de R&D. Hein, je crois qu'il y a eu 1500 essais.
R&D, c'est recherche et développement.
Recherche et développement. Il y a eu 1500 essais dans le cadre du programme sur la cuve de Flamanville. Il y a eu des pièces sacrificielles qui ont été faites, qui ont été testées, etc. C'est-à-dire que, oui, elle n'était pas aux normes initiales, mais toutes les propriétés mécaniques de cette cuve ont été validées par les tests et les essais.
France Culture. Du grain à moudre. Antoine Genton.
L'EPR aura-t-il la peau de la filière nucléaire française? C'est le débat du grain à moudre d'été. Ce soir, pour en parler, trois invités. Valérie Faudon de la Société française d'énergie nucléaire, David Martineau, directeur énergie du cabinet de conseil SIA, et Alix Mazouni de Greenpeace France. Les conséquences maintenant, une fois qu'on a fait le bilan, le constat plutôt de la situation à Flamanville autour de l'EPR, plusieurs conséquences évidemment. Commençons, et vous l'évoquiez tout à l'heure Alix Mazouni, par EDF. Quelles conséquences ce retard peut-il avoir sur ce nouveau retard, peut-il avoir sur EDF, des conséquences financières, des conséquences sur l'organisation de l'entreprise, sur la survie peut-être même de l'entreprise?
Aujourd'hui, EDF est en crise financière. Je pense que personne conteste le fait que la situation financière d'EDF est très très compliquée. Ça fait un moment qu'elle est compliquée, d'ailleurs.
Valérie Faudon n'est pas d'accord. On va lui donner la parole dans quelques instants.
Le coût de l'EPR de Flamanville, qui est déjà de 11 milliards d'euros, et c'est pas terminé puisqu'on ne sait pas encore combien ça va coûter de refaire les soudures. En moyenne, on a calculé que ça coûtait environ 1 milliard d'euros par an chaque année qui passe sur ce chantier. Donc imaginons que ce soit 2022, on est déjà sur 13, voire peut-être même 14 milliards d'euros minimum. Donc c'est quand même des sommes conséquentes qui pèsent sur la comptabilité d'EDF. C'est également le cas du réacteur de Hinkley Point. Il faut regarder toujours plus largement au Royaume-Uni, qui lui aussi coûte très cher à l'entreprise. Et pour nous, c'est très clair, en fait. Ce qui pèse, ce qui fait du mal à EDF aujourd'hui, ce qui sclérose l'entreprise, c'est les surcoûts liés à ces investissements à la fois dans le nouveau nucléaire, sachant qu'en parallèle, il faut aussi investir dans les vieux réacteurs, puisqu'il n'est absolument pas prévu de les fermer rapidement au regard de ce qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale et du plan que propose EDF. Donc effectivement, ça a des conséquences économiques importantes qui vont aussi se traduire sur le coût du mégawattheure, du coût de l'électricité pour les consommateurs, puisque a priori, on est déjà à 100 euros, donc deux fois plus. Le coût de l'électricité produite par Flamanville sera deux fois plus élevé que le coût de l'électricité aujourd'hui, même le coût produite par les énergies renouvelables. Donc, et ça va être le cas aussi à Hinkley Point au Royaume-Uni. Enfin, en fait, on se bien compte que le nouveau nucléaire propose une électricité qui est beaucoup trop chère, qui en plus génère des risques, génère des déchets radioactifs, n'oublions pas, parce que c'est toujours le sujet qu'on minimise, mais il y a un vrai sujet sur les déchets nucléaires qui seront générés par cette centrale, par cette EPR. Pardon.
Valérie Faudon.
Oui, donc je voulais répondre tout d'abord à la question de la situation financière d'EDF, puisque EDF a versé ces 10 dernières années plus de 20 milliards d'euros de dividendes à l'État. Donc c'est le premier contributeur à l'Agence des participations de l'État. Donc aujourd'hui, EDF gagne de l'argent grâce au nucléaire. Les coûts de production du parc nucléaire actuel qui sont aux alentours de 33 euros, alors que les prix du marché de gros sont aux alentours de 50. Alors il ne gagne pas assez d'argent. Pourquoi? Parce qu'il doit penser à renouveler ses moyens de production. C'est-à-dire qu'il doit préparer l'après-centrale nucléaire actuelle. Et l'EPR est au cœur de cette stratégie. Et au-delà de la stratégie d'EDF, il est au cœur de la stratégie française pour garantir un approvisionnement bas carbone, parce que vous savez que le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, grâce au nucléaire, aujourd'hui, la France est le pays industrialisé qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant. Mais il s'agit de préparer le futur. On sait que dans le futur, on aura des renouvelables, mais que les renouvelables, en particulier l'éolien et le solaire, ne produisent pas 24 heures sur 24. Donc, on a besoin de moyens, on a besoin d'un socle qui produit à la fois de l'électricité décarbonée et 24 heures sur 24. Donc ça sera le futur parc nucléaire. On devra, au fur et à mesure, renouveler une partie du parc nucléaire par des nouveaux moyens.
David Martineau.
Oui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui est bien inscrit aujourd'hui, notamment dans la politique pluriannuelle de l'énergie et ce qui est en train de passer sur la loi énergie-climat, c'est bien de se dire, effectivement, il faut se donner un ensemble et une combinaison de différentes choses. Donc, le gouvernement a fixé un objectif de descente, de la proportion du nucléaire d'un peu plus de 70% à 50% à l'horizon 2035. Ce 2035, il a été choisi parce qu'il était réaliste, contrairement à ce qui était écrit dans la loi de transition énergétique précédente qui était en 2025, et là on voit bien que on ne savait pas techniquement compenser l'arrêt des centrales par d'autres énergies. On voit bien que de toute façon il y a une logique de dire il va falloir continuer à avoir un mix entre différents sujets.
Sur EDF, est-ce que l'EPR de Flamanville, ces coûts qui explosent, portent un coût particulièrement dur à l'entreprise?
Forcément, c'est un coût, et forcément, il est supporté par EDF, ça c'est très clair, il suffit de le regarder dans leur compte. Après, si vous écoutez, encore une fois, le PDG d'EDF, il vous donne d'autres éléments en disant, moi je supporte aussi ça, mais je dois le revendre avec l'AREN, je dois revendre à mes concurrents 42 euros le mégawattheure, ce qui couvre pas mes coûts, je dois effectivement allonger la durée de vie des centrales, sinon je tiendrai pas à l'échéance de ne fermer que 14 réacteurs à l'horizon 2035, etc. Donc si on l'écoute, cet ensemble, j'allais dire, c'est un ensemble de choses qui font et qui créent les coûts d'EDF. On peut en trouver d'autres. Je pense que c'est quand même difficile de dire ou de justifier que ce sujet-là n'est pas à surcoût par rapport à ce qui était exposé initialement. Il faut être clair. Au départ, on était parti sur un programme de 5 ans, 4 milliards. On se retrouve aujourd'hui sur quelque chose qui va être plutôt de 15 ans et 11 milliards.
Au moins 11 milliards.
Voilà, au moins 11 milliards. Mmh. C'est sûr que c'était pas ce qui était prévu et c'était pas le sujet voulu. De la même façon, sur Hinkley Point, aujourd'hui, il y a un prix d'achat qui a été négocié à 104 euros du mégawattheure, qui risque d'être juste limite par rapport au coût qui va être fait. Mais, je vous rejoins sur ce sujet-là, mais je rejoins aussi un peu tout le monde là-dessus. Il est vrai que néanmoins, on a aujourd'hui une obligation de se dire comment est-ce qu'on va faire le mix jusqu'à 2035 et au-delà. Mmh. Et donc pour moi, parce qu'aujourd'hui, la loi de climat-énergie, elle s'arrête un petit peu en 2035. On dit, tiens, voilà, on est arrivé à 50%, mais qu'est-ce qui se passe au-delà? Et qu'est-ce qui se passe au-delà? À partir de 2035, certes, on a fermé 14 réacteurs, ce qui permet effectivement de descendre la part aujourd'hui à 50%, mais à partir de 2035, il y a des réacteurs qui deviennent en fin de vie et qu'il va falloir remplacer. Et donc, soit on a en 2035 une structure qui permet de se dire, bah tiens, je vais pouvoir en fermer d'autres parce que je sais utiliser mes énergies renouvelables avec notamment des solutions de stockage pour éviter l'intermittence et une solution qui est techniquement efficace et en plus économiquement efficace. Aujourd'hui, c'est rien n'est avéré, hein, on est sur de la R&D là-dessus. Hein. Donc on n'a pas de solution à grande échelle qui permette de le faire, mais on a un peu de temps. Soit on se dit, il y aura de toute façon d'autres réacteurs à construire, et je crois qu'aujourd'hui, la seule chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas faire le pari que d'ici là, il y aura des solutions de stockage technico-économiques. Donc, même si on veut les développer en parallèle en lançant des programmes massifs d'investissement sur ce sujet, on n'a pas la possibilité de se dire, on va arrêter le nucléaire. C'est juste un peu pragmatique, je pense.
Alex Mazzoni.
En fait, il faut se projeter dans le temps. C'est ça qui est un peu difficile. Et souvent, on entend que, effectivement, le nucléaire
est. C'est ce qu'on essaie de faire, là, effectivement.
Oui, effectivement. Hein. Le nucléaire est un mal indispensable. Que si on arrête les centrales, on se retrouverait dans le noir, etc. Qu'on n'a pas de solution. Nous, ce qu'on dit, c'est attention. Ce qu'on commence à programmer aujourd'hui, c'est pour 2040, 2050, 2060. Sauf que ça commence aujourd'hui, parce que si on prend pas les bonnes décisions aujourd'hui, notamment de réduire la part du nucléaire, de fermer les réacteurs plutôt que d'essayer de les prolonger et de s'acharner à les prolonger bien au-delà de leur durée de vie initiale, il vaut mieux justement commencer aujourd'hui à faire un plan qui dit voilà comment on va réduire et voilà comment on va, par exemple, renforcer les économies d'énergie pour réduire la consommation des Français, parce qu'aujourd'hui on gaspille énormément l'électricité, et en parallèle on va développer les énergies renouvelables qui, certes individuellement ne fonctionnent pas 24/24, mais qui jouent en équipe, elles sont complémentaires. Il y a un certain nombre de scénarios et pas juste des scénarios des ONG qui montrent que en 2050-2060, on peut avoir une électricité 100% renouvelable et que ça ne coûtera pas plus cher que si on investit dans le nouveau nucléaire. Donc je pense que c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à imaginer que les choses puissent changer et qu'elles puissent changer rapidement. Ce qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement et au gouvernement passé, c'est de toujours remettre à plus tard justement ces décisions structurantes. Mais c'est important, y compris pour la filière en fait, de savoir où on va. Et aujourd'hui, on ne sait pas où on va puisqu'on n'arrête pas de revenir sur des décisions prises. Et
Emmanuel Macron voudrait, lui, qu'un nouveau cap soit fixé pour l'industrie nucléaire dans deux ans, en 2021. Valérie Faudon.
Je pense que c'est vraiment important de comprendre que l'électricité ne se stocke pas. Donc à tout moment, on doit équilibrer l'offre et la demande. C'est pour ça qu'on a besoin de moyens disponibles 24 heures sur 24. Pourquoi le gouvernement a repoussé l'échéance de 2025 à 2035? C'est parce qu'il y a eu un rapport du gestionnaire de transport d'électricité qui a dit, pour tenir l'échéance de 2025, il faudrait construire 20 nouvelles centrales à gaz. Donc les centrales à gaz sont des centrales qui émettent énormément de gaz à effet de serre, avec du gaz en plus importé. Et ce qu'on voit dans le monde, c'est exactement ça. Par exemple, dans le New Jersey récemment, deux centrales fermées, deux nouvelles centrales à gaz. Le plan belge pour sortir du nucléaire, c'est de construire des centrales à gaz. Et au Japon, qui a arrêté ses centrales et qui redémarre très lentement, on compte maintenant, je lisais un article ce week-end, 13 nouvelles centrales à charbon, qui sont ce qu'il y a de plus polluant. Donc on a besoin de moyens qui produisent 24 heures sur 24. Donc ce que disent les grands experts de l'énergie, vous savez qu'ils sont regroupés à l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'on aura, bien sûr, il y aura des moyens de stockage. On ne sait pas à quel coût et avec quels moyens techniques. On ne sait pas non plus les limites physiques en termes de matière que ces moyens de stockage vont utiliser, avec les matières premières dont on aura besoin. Donc, ils mettent énormément de nucléaire en 2050 dans tous leurs scénarios, de même que les experts internationaux du climat, les fameux GIEC, qui mettent en fonction, ils ont quatre grandes trajectoires pour les 1,5 degré, et ça va d'un doublement de la production nucléaire à une multiplication par 5.
Je reviens sur ce que vous disiez, mais si le coût, avec le dérapage des coûts autour de l'EPR, il n'y a pas que ça, transformer ou aménager les centrales existantes, dont certaines arrivent d'ailleurs à échéance, dont la durée de vie arrive à échéance, 40 ans, celle du Tricastin par exemple, qui est en travaux actuellement.
En travaux, absolument.
Voilà, jusqu'au mois de novembre pour prolonger et poursuivre sa durée de vie de 10 voire 20 ans, tout ça, ça a un coût.
Absolument.
Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'un modèle là, autour du nucléaire, entre l'EPR dont le coût dérape et puis les centrales existantes qu'il va falloir...
Alors pour les centrales existantes, bon, les travaux ont déjà
aménager,
commencé.
Hein, rénover.
Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des travaux sur les centrales, des changements de composants, des renforcements de digues. Il y a eu aussi la mise en place d'une force d'action rapide nucléaire après l'accident de Fukushima. Donc ça a un coût en effet pour vous donner une idée, aujourd'hui, EDF investit à peu près 3 milliards par an en maintenance sur le parc et depuis 2015. Depuis 2015, ils investissent 1 milliard supplémentaire. Donc on retrouve le chiffre de 4.
Voilà,
donc, et malgré tout, le parc nucléaire reste très compétitif puisqu'il a vraie raison, c'est qu'il est amorti en fait. Donc aujourd'hui, c'est le moyen le plus compétitif en Europe, bas carbone, qui fonctionne 24 heures sur 24. Et alors, un des points que je voulais vous dire aussi, qui est très important, c'est qu'on ne peut pas comparer le nucléaire avec de l'éolien ou du solaire. On ne peut pas parce qu'il ne remplit pas les mêmes services. Si on veut comparer, ça serait comme des pommes et des poires, il faudrait comparer par exemple l'éolien, mais avec des moyens de backup, puisque en fait, il ne fonctionne pas 24 heures sur 24.
D'accord, on revient toujours à cette,
idée à cette idée
de production.
Et cette idée qu'il faut avoir un mix électrique avec différents moyens, de l'hydro, du nucléaire, de l'éolien, du solaire.
Alix Mazzoni avant David Martineau.
Oui, ce qu'il faut rajouter aussi dans les coûts du nucléaire, parce qu'effectivement déjà on a un problème de base qui est qu'on a les chiffres d'EDF et il y a très peu de chiffres, en fait il y a très peu de données disponibles pour réellement évaluer le coût total de ce que coûte le nucléaire. Aujourd'hui il y a un chiffre qui circule qui est celui d'EDF qui est de dire que ça coûte environ 32, bon peu importe, une somme assez faible pour produire de l'électricité dans une vieille centrale nucléaire. Ça ne prend quand même pas en compte tous les coûts de gestion des déchets, de tous les coûts des démantèlements. Non, pas la totalité qui, par ailleurs, nous, on estime, sont sous-estimés. D'ailleurs, ça fait partie aussi des questions qu'on pose régulièrement. C'est ne serait-il pas temps de faire une opération vérité, une opération transparence où on remet à plat le coût du nucléaire, parce que ça n'a pas été fait depuis longtemps.
Ça a été fait de nombreuses fois depuis 5 ans. Deux rapports de la Cour des comptes,
qui disent pas
une commission parlementaire, un audit du ministère, plus les comptes publics audités tous les ans.
Mais ce ne sont pas les chiffres justement qu'avant ce débat. Donc c'est ça où c'est intéressant. Il y a un débat. Ce débat, en fait, ça va quand même de quasiment du simple au double. Donc on pose la question parce que mécaniquement, le coût du nucléaire augmente à cause des travaux qu'il faut faire. Ça augmente aussi parce que chaque année, on produit plus de déchets. Donc c'est des déchets qui vont s'accumuler, qu'il va falloir gérer pendant des longues périodes d'années. Donc c'est pas comme si à un moment donné, vous pouvez dire voilà combien coûte le nucléaire. En fait, il faut regarder dans le temps parce que chaque année qui passe, c'est plus de choses à gérer.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on utilise les taux d'escompte et c'est. Comme je vous l'ai dit, deux audits de la Cour des comptes, un audit du ministère, les audits tous les ans des comptes d'EDF et une commission parlementaire dédiée. Donc je pense qu'il y a bien un sujet dans ce sujet.
Et la commission d'information parlementaire a dit qu'a priori, il fallait peut-être voir les coûts du démantèlement à la hausse.
Ils ont bien dit que les provisions
n'avaient pas été reprises. Bref, débat. Voilà, la preuve en fait, c'est qu'il y a plusieurs, je suis désolée, mais je pense qu'il y a plusieurs chiffres qui sont d'ailleurs souvent pas utilisés au même moment, au bon moment. On compare des pommes et des poires ou des torchons et des serviettes. Je vous rejoins bien là-dessus, mais effectivement, je pense qu'il faut pas sous-estimer ce fardeau des déchets nucléaires qui continue de s'amonceler. Un autre sujet, pardon, désolée, après j'arrête. Mais effectivement, pendant des années, EDF a été une source de dividendes pour l'État. Les choses se sont quand même renversées depuis plusieurs années puisque l'État a arrêté de prélever ses dividendes justement parce que l'entreprise est en crise. Et qu'au contraire, il y a eu plusieurs opérations de sauvetage de la filière nucléaire, pas mal d'argent réinjecté pour essayer de soutenir cette filière qui, effectivement, aujourd'hui, rencontre un vrai problème de rentabilité.
Et elle représente aussi des milliers d'emplois, c'est ce que disait tout à l'heure Valérie.
220 000, oui.
Pareil, on n'a pas de chiffres récents.
David Martineau.
Oui, je voulais juste revenir sur un autre point, du coup, pas revenir sur les coûts, vous avez eu un débat suffisamment long, toutes les deux. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, dans certains scénarios, en 2050-2060, on arrive à des équilibres, des solutions presque sans nucléaire ou autre. Alors, moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là. On a des avis ou pas d'avis sur le fait qu'on sera capable de le faire en 2060 ou en 2070 ou jamais ou autre. C'est une volonté politique et un choix technologique, évidemment. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on se projette à ces horizons de temps-là, et je suis d'accord avec vous, c'est une façon d'éclairer le débat que de se projeter assez loin. On est obligé de réfléchir, mais qu'est-ce que c'est qu'un finalement un réseau dans lequel on n'a plus de moyens de base tel qu'on l'a aujourd'hui avec le nucléaire. Et donc ça impose des nouvelles technologies de stockage et d'évolution des réseaux, sur lesquels aujourd'hui, si on veut, on espère qu'elles soient matures à un horizon de temps type 2050 ou autre, il va falloir commencer véritablement à les expérimenter, à les rendre industriels. Ça, c'est évident. Et mais encore une fois, je reviens donc sur ma position. Je pense que, et c'est ce que veut faire aujourd'hui, à mon avis, le gouvernement, en disant, bah tiens, on se fixe un objectif à ce point-là, 2035, et on verra un peu plus tard où on va derrière. C'est à la fois pour, j'allais dire, acheter du temps pour permettre à ces technologies de devenir plus matures, tout en envoyant un signal dès à présent de on veut et on tient vraiment à renforcer le, eh bien, notre part d'énergie fatale, enfin d'énergie renouvelable dans le réseau. Et donc moi je trouve en ce sens que la loi climat-énergie, elle fixe un bon objectif. Alors après je suis pas toujours d'accord avec la façon dont elle veut le mettre en œuvre derrière.
Donc c'est 50% d'énergie nucléaire à l'horizon 2035.
Ouais, mais au moins ça fixe un point qui est déjà une trace sur quelque chose. Par contre, je rejoins pas votre la question tout à l'heure qui est de dire mais si on veut aller des scénarios plus qui descendent plus encore la part plus loin, bah, il va falloir faire d'autres choses. Et ces choses-là, c'est des sujets qu'il va falloir expérimenter auparavant.
Valérie Faudon.
Oui, je pense que ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que la France n'est plus un pays isolé qui fixe toute seule son mix électrique parce qu'elle est au milieu d'un réseau européen de plus en plus interconnecté. Mmh. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une très grande incertitude sur les stratégies de nos voisins. On parlait par exemple des Belges, ils ont 60% d'électricité qui vient nucléaire, ils veulent fermer en 2025. On voit les Allemands qui continuent à fermer le nucléaire et maintenant veulent fermer le charbon, donc on n'est plus du tout sûr qu'ils vont pouvoir eux-mêmes assurer leur sécurité d'approvisionnement.
Ce que peut faire la France, la France est indépendante.
Les Suisses, alors elle est...
En grande partie.
Oui, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments donnés où, où les pays appellent, en fait, appellent l'électricité chez leurs voisins. On l'a vu il y a à peu près 2 mois, à un moment donné, il y avait un problème de vent en Italie et en Espagne. La France s'est mise à exporter 25% de sa production pour aider les Italiens et les Espagnols. Et la France, avec son nucléaire, c'est elle qui assure la stabilité du réseau électrique d'Europe de l'Ouest. C'est le pays le plus exportateur d'Europe de l'Ouest. Elle exporte 10% de sa production et elle assure cette sécurité d'approvisionnement électrique.
Et ce, donc, grâce au nucléaire. Si on imagine, et de toute façon, c'est le chemin que ça prend pour le moment, en tout cas, que la part du nucléaire reste majoritaire dans le mix énergétique français, est-ce qu'il faut, et je reviens là à l'EPR, est-ce qu'il faut persévérer, voire s'acharner sur la construction d'un EPR, ou alors changer de stratégie et revenir à la construction finalement de réacteurs un peu moins perfectionnés, mais qu'on sait fabriquer, puisqu'on en a fabriqué des dizaines déjà?
Alors, on s'est fixé, enfin, c'est même l'autorité de sûreté qui a fixé comme exigence qu'on construirait des réacteurs de troisième génération, et ce qui est normal.
Type EPR.
Oui, voilà, ces réacteurs sont là pour 60 ans, c'est normal qu'on construise des réacteurs avec le plus haut niveau de sûreté. Mais par contre, il faut absolument continuer. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vécu avec le chantier de Flamanville, c'est une remontée en compétences de la filière française, puisque la filière a appris en reconstruisant.
À quel prix ?
Donc, absolument. Donc, maintenant, il ne s'agirait pas d'arrêter de construire, puisque ces gens qui ont travaillé sur Flamanville, ils vont aller travailler dans d'autres industries. Non, il s'agit de bâtir sur ce qu'on a appris sur Flamanville et continuer à apprendre. D'où l'importance, vous savez, quand on a bien construit dans les années 70, on avait un vrai programme industriel. Toutes les sociétés de la filière, elles avaient une visibilité, on va construire combien de réacteurs, avec quel cadencement, donc elles pouvaient embaucher, elles pouvaient former, elles pouvaient dimensionner leurs usines. Donc là, ce dont la France a besoin, et ce qui est d'ailleurs en train d'être instruit, c'est un vrai programme industriel qui doit garantir cette infrastructure stratégique qu'est son parc nucléaire.
David Martineau.
En tout cas, moi, je pense que quel que soit finalement, enfin, quel que soit le point qu'on veut situer au-delà de 2035 et les 50%, donc on se fixe déjà ce premier objectif. Une fois qu'on a ce premier objectif, effectivement, derrière, si on ne fait rien, on va avoir toute une série de centrales qui vont tomber en fin de vie dans les 10 ans qui viennent derrière. Mmh. Et à mon avis, ça sera trop rapide en termes de nombre de centrales qui s'éteindront pour pouvoir avoir des moyens de substitution non carbonés, hein, parce que si c'est carboné, c'est facile, mais on n'en veut pas, et heureusement. Et donc, du coup, on est obligé de tenir ce point-là. Par contre, il y a quand même un point qui est, à mon sens, assez compliqué, et j'espère que le gouvernement va clarifier, c'est que c'est quand même assez difficile d'expliquer à une filière dont vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'avoir des gens qui s'inscrivent dans cette filière avec des nouveaux recrutements, des enjeux, etc. et autres. C'est compliqué d'avoir une filière si on lui donne pas un peu de perspective et si on lui montre pas où elle va aller. Alors si on explique à la filière que son travail c'est d'exploiter et de démanteler, c'est un type de métier, Je suis pas sûr qu'aujourd'hui certaines compétences soient très motivées par cette perspective, et je pense qu'effectivement d'autres vont devoir avoir aussi des chantiers de construction. Donc je dis pas qu'il faut fabriquer des EPR pour entretenir la filière, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis que de toute façon,
c'est un choix stratégique là.
Non, mais je dis que de toute façon, je pense qu'il faudra quelques réacteurs encore derrière. C'est pas à moi d'en définir le nombre, et j'espère que le gouvernement prendra une décision qui est claire. Mais en tout cas, le fait de pas donner de visibilité sur ce qui va se passer à long terme le choix même au-delà de 2035 me semble être quelque chose qui est plutôt un effet vous parliez de conséquences tout à l'heure, plutôt un effet négatif pour l'attractivité de cette filière, et après on va avoir un jeu de café de poule.
Valérie Faudon, vous en espérez combien de PR dans les années qui viennent? Vous aimeriez voir combien construit?
Regardez les scénarios européens qui mettent 40 gigawatts en France en 2050. Donc ça veut dire construire 20 gigawatts, ça veut dire à peu près une quinzaine de PR entre 2030 et 2050. Avec un cadencement, parce que pour faire un programme industriel, il faut cadencer. Donc avec un cadencement où on démarrait à 2 EPR tous les 5 ans. Et puis après, il faudra qu'on accélère à partir de 2040. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de réacteurs qui ont été mis en ligne très rapidement dans les années 80. Et donc, ils vont atteindre la date limite des 60 ans en même temps. Donc là, il faudra qu'on soit vraiment capable d'assurer industriellement la construction.
Oui, parce que là, on en est à 15 ans, en 2022. Si jamais le EPR de Flamanville entre bien en service dans 3 ans, ça fera 15 ans. Donc, le programme a commencé en 2007. Il faudrait que la filière, pour respecter le calendrier que vous évoquez, Valérie Faudon, il faudrait que la filière là puisse assurer.
Absolument, parce que vous savez, ça prend du temps. Il y a un certain nombre d'étapes réglementaire. Il y a aussi un certain nombre de débats qui doivent avoir lieu, évidemment, d'enquêtes publiques, etc. Donc, il faut en effet, il y a aussi des pièces qui demandent du temps à être fabriquées. Donc, en fait, il faut vraiment avoir une visibilité assez importante pour pouvoir lancer ce programme industriel.
Il nous reste une minute avant la fin de cette émission. Question simple, quel est l'avenir pour la filière nucléaire? Alix Mazzoni, en quelques mots.
Pour nous, zéro EPR en France, on n'a plus besoin de nouveaux nucléaires, il faut tourner la page, c'est fini. On fait autrement, sans danger, sans déchets. Une fois qu'on a fermé tous les réacteurs nucléaires vieillissants, et même ça, on peut le faire plus rapidement.
Donc à 10 ans?
Même 2040, pas. 2045, en tout cas, même les scénarios de l'ADEME montrent qu'en 2050, on arrive au 100% renouvelable, donc voilà.
Rapidement, Valérie Faudon, comment vous le voyez l'avenir de la filière nucléaire?
Je pense qu'on a besoin d'apprendre à construire des EPR, on a besoin d'un programme industriel parce qu'on en a besoin à la fois pour garantir notre sécurité d'approvisionnement électrique à terme, pour notre politique climat et puis aussi pour l'avenir de l'ensemble de l'industrie française.
David Martineau, là encore, il vous reste 15 secondes.
En tout cas, je vais pas arbitrer entre ces deux positions qui sont assez extrêmes. Je pense qu'en tout cas, le seul point qui est important, c'est de trouver une solution qui permette, en toute visibilité, pour des programmes de toute façon industriels qui sont très lourds, soit sur la filière production, soit sur la filière notamment réseau stockage, dans le cas des éoliens, trouver une solution qui permette, avec pragmatisme et avec sécurisation de la trajectoire, de conserver notre capacité d'indépendance et surtout notre capacité à avoir une filière sans carbone, puisque c'est bien ça le vrai sujet.
Merci à tous les trois. Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, David Martineau, directeur énergie du cabinet de conseil SIA, Alix Mazzoni, chargée de campagne énergie chez Greenpeace France. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Elodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir Thomas Jost, mise en onde Alex Dong. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, le site franceculture.fr ou l'application Radio France. Demain, nous parlerons d'une vaste réforme au Vatican, celle de la Curie romaine.